Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Blaise Sindani Kamara.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal dont voici les sommaires. Dans un rapport rendu public ce lundi, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme dresse un tableau alarmant des exactions commises contre les civils. Ces violations des droits de l'homme ont lieu essentiellement dans les provinces situées dans l'est du pays où écument les groupes armés. Le 25 novembre 2025 correspond à la date limite pour déposer les bordereaux de versement d'acompte et pour payer le troisième acompte provisionnel de l'impôt sur les bénéfices et profits pour l'exercice 2026 basé sur les revenus de 2025. Mais quels contribuables sont concernés par cette échéance et quelles sont les sanctions prévues en cas de défaut des déclarations? La réponse dans quelques instants. À Irumu Centre, dans la province de l'Ituri, plus de 13 000 habitants vivent une pénurie aiguë d'eau potable. Les 4 points d'eau disponibles sont largement insuffisants, poussant de nombreux ménages à utiliser l'eau de la rivière avec des risques élevés pour la santé. Pour en parler, nous recevons Jean-Pierre Bongamizi, l'infirmier titulaire du centre de santé de Komanda. Encore une fois, bonjour à tous. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, BCNUDH, révèle une augmentation des atteintes et violations des droits humains au cours du premier semestre 2025. Dans un rapport rendu public ce lundi, le BCNUDH dresse un tableau alarmant des exactions commises contre les civils. Ces violations des droits de l'homme ont lieu essentiellement dans les provinces situées dans l'est du pays où écument les groupes armés. Les précisions dans ces reportage d'Enoch Katumbi.
Selon le BCNUDH, 2767 violations et atteintes aux droits de l'homme ont été documentées, soit une augmentation de 11% par rapport au semestre précédent. Parmi elles, 86% ont été commises dans les provinces en conflit, notamment à cause de l'intensification des combats à l'est, où des groupes armés comme le M23, le ZIDF et la CODECO continuent de semer la terreur. À Ituri, les violations ont augmenté de 21% par rapport à l'année précédente, avec 416 cas documentés. Les attaques de groupes armés comme la CODECO et Zaïre, ainsi que la création des nouvelles milices, aggravent la situation. Les violences sexuelles liées au conflit ont également explosé, avec 266 victimes recensées, soit une hausse de plus de 100% par rapport à 2024. Les groupes armés, notamment le M23 et la CODECO, sont responsables de la majorité des crimes, mais des agents de l'État, comme les FRDC, sont également pointés du doigt. Par ailleurs, les restrictions à l'espace civique se poursuivent, avec 70 violations documentées, touchant particulièrement les défenseurs des droits de l'homme et les journalistes dans les provinces de l'Est. Le BCNUDH alerte également sur le regain des discours de haine, visant notamment les communautés Tutsi et Banyamulenge.
Dans ce même registre, les ADF et les M23 se distinguent tristement comme les groupes armés les plus meurtriers du mois d'octobre selon les rapports mensuels du baromètre sécuritaire du Kivu publié hier par l'Institut des recherches Ebouteli. Ce rapport met en évidence une disparité dans la couverture médiatique des violences dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et de l'Ituri. Henri Pacific Mayala, analyste à Ebouteli et coordonnateur du baromètre, souligne que les exactions du M23 attire davantage l'attention des médias alors que celles des ADF, pourtant responsables d'un plus grand nombre des victimes civiles en octobre, sont sous-médiatisées. Je vous propose d'écouter Henri Pacific Mayala, joint par Poli Mouzalia.
Le baromètre sécuritaire du Kivu qui couvre le Nord Kivu, Sud Kivu et la province de l'Ituri au cours du mois d'octobre a documenté 145 affrontements armés dont 89 dans le cadre du conflit AFC-M23. Cependant, alors que les ZIF ont tué un total de 75 civil suivi du M23 qui a enregistré 31 civils tués et la CODECO qui vient avec 18 civils. Nous remarquons que le conflit relatif au M23 AFC est de plus en plus médiatisé et très peu de lumières sont orientées sur la crise ADF dans la province de l'Ituri et qui s'étend de plus en plus vers le territoire de Lubero dans la province du Nord Kivu.
Et puis l'Union européenne renforce son soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. Un communiqué rendu public ce lundi annonce l'octroi de 10 millions d'euros pour l'acquisition d'équipements militaires non létaux destinés à améliorer les capacités opérationnelles de l'armée congolaise. Les précisions avec vous, Poli Mouzalia.
L'Union européenne accorde 10 millions d'euros supplémentaires aux forces armées de la République démocratique du Congo. Selon l'Union européenne, cette somme permettra à l'armée congolaise d'acquérir des équipements non létaux pour renforcer ses capacités opérationnelles. Ces équipements incluront des outils pour le commandement et le contrôle, l'amélioration des conditions de déploiement, l'assistance médicale ainsi que des moyens pour effectuer des patrouilles de surveillance le long des frontières fluviales. Les premières livraisons de ces équipements sont prévues avant la fin 2026. Il s'agit de la deuxième mesure d'assistance accordée au FARDC par l'Union européenne. La première, adoptée en 2023, visait à soutenir la 31e brigade de réaction rapide basée à Kindu. Avec cette nouvelle aide, le total des contributions du mécanisme européen pour la paix au FARDC s'élève désormais à 30 millions d'euros. Ce soutien s'inscrit dans le cadre des efforts de l'Union européenne pour accompagner la réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo et appuyer les FARDC dans leur mission de protection des civils et de rétablissement de l'autorité de l'État, tout en contribuant au processus de paix.
Le 25 novembre 2025 correspond à la date limite pour déposer les bordereaux de versement d'acompte et pour payer le troisième acompte provisionnel de l'impôt sur les bénéfices et profits IBP pour l'exercice fiscal 2026 basé sur le revenu de 2025. Ce troisième acompte équivaut à 20% de l'impôt déclaré à l'échéance du 30 avril 2025, augmenté des suppléments d'impôt éventuellement notifiés par l'administration des impôts ou en l'absence de déclaration de l'impôt reconstitué d'office. Quels contribuables sont concernés par cette échéance et quelles sont les sanctions prévues en cas de défaut de déclaration? Écoutez la réponse de Pierre Kabeya, chargé d'études à la division communication et documentation de la DGI. Il est au micro de Jocelyne Moussaoupondé.
L'obligation de paiement du troisième acompte provisionnel du 25 novembre 2025 concerne les catégories de contribuables suivantes. Donc il y a les grandes entreprises relevant la direction des grandes entreprises, DGE, et les moyennes entreprises relevant des centres des impôts et des sièges modélisés et modernisés dans des provinces qui n'ont pas de CDI, ainsi que de certains centres d'impôts synthétiques.
Et les récalcitrants ne manquent pas. Hein. Qu'est-ce qui est prévu pour les contribuables qui ne vont pas respecter cette obligation fiscale?
Oui, madame, le défaut ou l'insuffisance de paiement de l'acompte provisionnel du 25 novembre 2025 expose les contribuables à une amende fiscale équivalente à 50% du montant de l'acompte non payé. Et cette pénalité est automatiquement applicable conformément à la législation fiscale en vigueur.
La synergie des missions d'observation citoyenne des élections Simoncel exprime son étonnement après l'annonce vendredi dernier de l'incendie d'un entrepôt de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Dans un communiqué publié ce lundi, cette organisation de la société civile rappelle que des incidents similaires se sont déjà produits par le passé au sein de la CENI. La Simoncel appelle à la mise en place d'une enquête pour faire toute la lumière sur cet événement. Écoutons Luc Loutala, coordonnateur de la Simoncel, joint par Poli Mouzalia.
Deux choses nous étonnent dans cette annonce. La première, c'est que la CENI n'a pas pu tirer des leçons de l'incendie qui est intervenu en 2018 dans ses entrepôts centrales et qui a causé énormément de dégâts. Mais en même temps, on se rappellera le vol de dispositifs électroniques de vote en 2023, où des particuliers ont été trouvés avec du matériel sensible à la CENI. Ces deux choses auraient quand même poussé la CENI à devenir plus aguerrie dans la mise en place des procédures de sécurisation du matériel électoral. La deuxième chose, c'est la façon de la CENI d'annoncer cet incendie avec tellement d'insuffisance et le contexte dans lequel cet incendie intervient. Et les circonstances de cet incendie restent totalement floues. Il faudrait donc une enquête totalement indépendante dans laquelle les missions d'observation électorale, la société civile, soient impliqués pour clarifier les raisons et les circonstances de cet incendie.
Dans le chapitre politique, l'Alliance pour le dialogue inclusif et la réconciliation à dire soutient l'initiative des princes de l'Église visant à ramener la paix dans l'Est de la RDC. C'est dans ce cadre que cette plateforme a lancé ce lundi à Kinshasa une pétition pour soutenir la tenue d'un dialogue entre les Congolais. Le coordonnateur et porte-parole de cette structure, Price Moadir, doute que les différents accords conclus par le gouvernement n'apportent pas de solution à la crise faute d'inclusivité. Il estime que seul le dialogue peut aider les Congolais à mettre fin à l'insécurité qui sévit à travers le pays, à l'instar du phénomène Mobondo, du banditisme urbain et des détournements des deniers publics. Les propos de Price Moadir recueillis par Blaise Ndongala Mayanda.
Le processus de négociation entamé par notre gouvernement et la signature des différents accords souffrent d'une crise de confiance entre le parti signataire d'une part et la classe politique non impliquée ainsi que la société civile d'autre part. D'où l'urgence que le Congolais puisse dialoguer afin de discuter froidement de leurs problèmes réels et envisager des solutions pérennes. Tout en soutenant la feuille de route des confessions religieuses 5COSC pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans la région de Grand Lac, nous invitons la population de signer cette pétition afin de demander au chef de l'État de convoquer le dialogue national inclusif.
Province du Maniema, le gouverneur des provinces a déposé hier lundi 24 novembre le projet d'édit budgétaire exercice 2026 au bureau de l'Assemblée provinciale du Maniema. Moussa Kabwankubi Moïse précise que ce budget s'élève à plus de 417 milliards de francs congolais. Ce projet d'édit budgétaire qui connaît un taux d'accroissement de 2,62% par rapport au budget en cours. On écoute Moïse Moussa Kabwankubi dans cet extrait choisi par Florence Kizalunga.
C'est projet d'édit budgétaire est en équilibre en recettes comme en dépenses. Il est évalué à 417 milliards. Par rapport au budget en cours, donc au budget 2025, qui était de 406 milliards de francs congolais, nous avons une progression pour un accroissement de 2,62%. Nous pensons qu'il va répondre aux besoins, même si ces besoins sont nombreux, mais le budget doit être réaliste. Le budget doit refléter notre capacité de mobilisation des ressources. Nous avons accordé la priorité, par exemple, aux infrastructures, aux secteurs sociaux, notamment l'éducation et la santé. Et nous avons proposé des réformes, par exemple dans le secteur de l'éducation. Pour la première fois, à partir de l'année 2026, la province va commencer à prendre en charge 17 meilleurs élèves ou diplômés d'État de la province, à raison de 2 lauréats par territoire et 3 lauréats pour la ville de Kine.
De son côté, le président de l'organe délibérant promet de soumettre ce projet d'édite à la commission ECOFIN pour son toilettage. Toutefois, Dr Kibungi Mutanga Junior remercie le gouverneur pour le respect du délai constitutionnel. À Kinshasa, l'inspection générale de la police nationale congolaise, PNC, passe à l'action pour lutter contre les abus des agents de la circulation routière. Le commissaire divisionnaire principal Philemon Patience Mouchidiav a décidé ce lundi du repositionnement permanent des véhicules des inspecteurs de l'inspection générale dans le point chaud et de contrôle des permis de conduire où les tracasseries contre les automobilistes sont fréquentes. Lors d'une réunion avec les cadres et inspecteurs de l'IG, il a rappelé à l'ordre les policiers véreux et insisté sur la lutte contre toutes les violations des droits humains dans les commissariats et sous-commissariats de la PNC. Reportage signé Enoch Katumbi.
D'un ton ferme, le commissaire divisionnaire principal Philemon Patience Mouchidiav a instruit les inspecteurs de l'inspection générale de la police de lutter contre les abus que commettent certains éléments véreux de la police des circulations routières, PCR en sigle. Il a dénoncé des pratiques telles que l'abus de pouvoir, la concussion et la brutalité, faisant notamment référence aux récentes vidéos montrant des policiers en train de tracasser des usagers de la route durant les contrôles des permis de conduire.
C'est une honte. Les auteurs de ces bavures doivent être arrêtés et déférés devant la justice. Le contrôle routier n'est pas censé être un marché informel d'infraction. Nos agents de la PCR vont au-delà de leur mandat de garde et nous devons combattre ce système-là.
Dans son adresse, l'inspecteur général de la police a également interpellé ses collaborateurs sur les violations des droits humains constatées dans certains commissariats et sous-commissariats de la police. Pour garantir l'application stricte de ses instructions, il a annoncé des sanctions sévères allant jusqu'au renvoi des inspecteurs en cas de manquement.
Actualité internationale.
Aujourd'hui, 25 novembre, c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a recensé plus de 1200 viols et agressions sexuelles déclarées et prises en charge au niveau national en 2024. 12% de ces cas ont été recensés dans le seul district d'Abidjan, mais les violences basées sur les genres sont aussi préoccupantes en dehors de la plus grande ville de la Côte d'Ivoire.
L'invité.
À Irum, au centre, dans la province de l'Ituri, plus de 13 000 habitants vivent une pénurie aiguë d'eau potable. Les 4 points d'eau disponibles sont largement insuffisants pour cent de nombreux ménages à utiliser l'eau des rivières avec des risques élevés pour la santé. L'infirmier titulaire du centre de santé de Komanda, Jean-Pierre Bongamizi, en parle avec Jean-Claude Lokidile.
Jean-Pierre Bongamizi, bonjour.
Bonjour.
Quels sont les problèmes auxquels les habitants d'Irum Centre sont confrontés sur le plan sanitaire?
Nous avons les problèmes de l'eau pour la population, parce que si à Irum, dans mon aire de santé, la population souffre de l'eau, vraiment, il y a des problèmes pour la population. Cela est lié, vraiment, il n'y a pas une bonne fontaine dans mon aire de santé. Ça cause ici un problème très sérieux pour la population d'Irum.
Quand vous dites que ces populations souffrent, comment expliquez-nous comment ils souffrent concrètement?
Et ils souffrent parce que pour avoir de l'eau, ça nécessite exercice. Et puis l'eau, il y a que seulement utilise de l'eau des régies des hommes. Parfois, on les paye. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas avoir de l'eau. Et par bidon, on paye 200 francs par bidon. Et parfois, cette régie des eaux aussi, ça s'abîme. Les gens manquent de l'eau aussi parfois.
Et 200 francs, c'est un peu cher parce que s'il faut acheter 5 bidons, par exemple, c'est déjà autour de 1000 francs et vous estimez que la population, la plupart sont des retournés et des déplacés, ils n'ont pas assez de moyens pour s'acheter de l'eau. Et ce qui les pousse justement à recourir à l'eau des rivières.
Oui, nous aussi, c'est un problème sérieux parce que la vie aussi se diffère, la population n'a pas de moyens d'avoir l'argent parce que les 200 francs, ça coûte beaucoup pour avoir plus ou moins 5 bidons et c'est un peu problème parce qu'ils n'ont pas les moyens d'y nasser. C'est là qui pose beaucoup de problèmes.
Et vous avez dit que la population est estimée s'il y a 13 423 habitants dans la région et justement et ils n'ont pas accès à l'eau potable. Je le répète, vous l'avez dit encore que ces gens recourent à l'eau des rivières et sur le plan de santé, sur le plan sanitaire, cela a quel impact vous qui recevez les maladies ici?
Oui, c'est là qu'on a un problème très sérieux parce que et si nous voyons comme l'eau n'est pas bien pour la population, ça a un problème sur la santé de la population. Et d'aider, nous avons passé aussi à certaines camps de paludisme qui est vraiment très élevé pour le mois parce que il y a certaines populations, ils n'ont pas les moustiquaires, ils dorment toujours comme ça. Et il y a les jeunes populations qui vivent au niveau des champs, ils n'ont pas de moustiquaires là vraiment dans les forêts. C'est pourquoi les populations souffrent les problèmes de paludisme et avec les problèmes des cas de fièvre typhoïde. Il faut aider, cela dit, à manquement de l'eau potable pour la population d'Irum.
Et vous disiez que le taux de palu ici est très élevé. Par exemple, sur le mois d'octobre, vous avez reçu 507 malades, parmi lesquels 235 cas de paludisme.
L'une de ces causes-là, il y a manquement, par exemple, certaines populations, ils n'ont pas de moustiquaires. Et il y a parfois, il y a les problèmes de l'assainissement du milieu aussi. Et il y a aussi, nous voyons aussi, il y a de l'eau qui est en train de stagner au milieu de la population. C'est là la cause qui est, nous avons trouvé que le cas de paludisme est très élevé par rapport à ça.
Heureusement, Jean-Pierre, l'ONG APEC, Association pour la protection de l'enfant au Congo, quand même vous ravitaille en médicaments antipaludéens.
Oui, c'est seulement que les antipaludéens nous recevons en provenance de APEC qui est en train d'appuyer la zone de santé de Nyakonde avec les produits des antipaludéens pour la prise en charge de cas de paludisme.
Ce qui n'est pas le cas justement pour le cas de fièvre typhoïde. Vous évoquiez par moi actuellement, vous recevez une trentaine de malades, parmi lesquels des enfants, des personnes adultes, de VIH. Qu'est-ce qu'il faudra, quel est votre plaidoyer justement pour que la population puisse avoir accès à l'eau? Qu'est-ce que vous adressez comme message, par exemple, au gouvernement congolais, au gouvernement provincial et à d'autres partenaires qui peuvent venir en aide à ces habitants, à ces plus de 13 000 habitants d'Irumu confrontés à un sérieux problème d'accès à l'eau potable?
Oui, notre plaidoyer, nous voulons aussi, nous demandons déjà de bonnes volontés de venir en aide pour essayer d'aider la population d'Irumu, des forêts, de l'eau, pour essayer d'aider la population d'Irumu. Parce que ici à Irumu, nous n'avons pas une source aménagée pour la population.
Jean-Pierre Bongamosi, oui. Nous disons merci.
Merci pour la radio Okapi.
C'est par ici que nous mettons un point final à notre journal du matin. Merci de nous avoir suivis.